Voilà, nous prenons la parole dans le livre de Jean au chapitre 7. Jean 7. Jean 7, à partir du verset 37. Merci Père de nous conduire par ton esprit, nous avons soif de toi. Merci de nous aider, de nous parler, que la chair s'efface, vraiment que ton esprit parle. Que nous puissions nous appuyer que sur toi Seigneur, et que nous ne considérions pas Seigneur, que c'est un moment de remplir nos cerveaux, mais c'est un moment de manger ta nourriture, d'être édifié pour nous rapprocher davantage de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la Bible dit au chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ce passage, nous voyons de l'action, du mouvement, mais nous voyons aussi des états. Parce que la prédication d'aujourd'hui a pour thème le faire et l'être. Les actions et les états, le faire et l'être, les actions et les états. Devons-nous nous attacher à quoi? Au faire ou à l'être? Au mouvement, aux œuvres ou bien aux états? À la nature des choses? Dans ce verset, nous lisons à la fin du verset 38, « De fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Des fleuves d'eau vive. Bien-aimé, si quelqu'un a déjà vu des fleuves d'eau vive, des fleuves en crue, en mouvement, c'est impressionnant. Rien que le bruit, c'est impressionnant. C'est puissant, c'est puissant. Les fleuves renversent des digues, des barrières en béton, les fleuves renversent ça. Le fleuve transporte des grands bateaux. Et là, la Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est des grandes actions, des grandes puissances qui sont mises en œuvre. Mais, qu'est-ce qui précède cela? La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Qu'est-ce qui précède le fleuve d'eau vive? La soif. La soif, c'est un état. C'est la nature des choses. On a soif. La soif, ce n'est pas une action. Ce n'est pas une manifestation d'œuvre, de puissance. Mais c'est un état. Tu as soif et ça crée le fleuve d'eau vive. Vous savez, quand on dit le vent souffle, mais avant que le vent souffle, il y a ce qu'on appelle dépression. La dépression, c'est une absence de pression, un vide. Lorsqu'il y a un vide dans l'atmosphère, ce vide-là demande à être comblé. Et c'est ce qu'on appelle en physique, en électricité, une différence de potentiel. Il y a un vide. Ce vide demande d'être comblé. Et quand c'est comblé, quand ça attire l'air, c'est ce qu'on appelle le vent. Le vent, c'est le fait qu'il y a un vide à gauche. Alors l'air passe un peu de la droite à la gauche pour remplir le vide là. Et ça crée le vent. Donc en quelque sorte, c'est le vide, c'est la dépression qui crée finalement le vent. Souvenez-vous, quand vous regardez la météo, on nous dit souvent il y a une dépression. Et quand on dit il y a une dépression, donc forcément il y a un mouvement qui est créé dans l'atmosphère et ça rend le temps un peu compliqué souvent. Quand on dit il y a une dépression, c'est la dépression qui se fait voir et il va y avoir donc des mouvements. Donc c'est le fait qu'il y ait le vide. C'est le fait qu'il y ait la soif qui crée le vent. S'il n'y avait pas le vide dans un lieu, il n'y aurait pas de vent, il y aurait une inertie, il n'y aurait pas de mouvement. Notre prédication, c'est chercher la nature des choses, chercher les états et non les actions. Chercher l'être et non le faire. C'est ça que nous devons enregistrer. Le monde, la logique humaine va nous pousser à chercher le faire, à chercher les actions, à chercher le mouvement. Mais Dieu va nous pousser à chercher les états, à chercher la soif, la faim. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il y a un autre verbe d'état qui est là. Celui qui croit, quand tu as la foi, il n'y a pas de mouvement. La foi, c'est dans ton cœur. C'est un état. Tu as la foi. La Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui a soif, qu'il vienne boire. Donc cette soif va engendrer l'action. Celui qui croit, cette foi va engendrer l'action. Bien-aimés, ce sont les principes du royaume des cieux. Jésus-Christ nous donne les clés des principes du royaume des cieux. Ce qui fait faire des grandes choses, ce qui a fait que les héros de la Bible ont fait des grandes choses, ils l'ont fait à cause de la foi, à cause de la nature des choses, à cause de l'état des choses. Nous avions dernièrement parlé de Joseph, qui n'a rien fait de spécial. Juste, il avait foi en Dieu. Juste qu'il était bon. Juste qu'il était prêt à obéir à Dieu. Juste que son cœur était un cœur qui plaît à Dieu, un cœur pur. Et Dieu ayant vu son cœur, il a dit, Joseph, c'est toi qui vas accomplir mes plans. Joseph, dans sa bonté, dans son état d'innocence, lorsqu'il a eu des songes, il en parle dans l'innocence. L'innocence lui le fait parler. Il ne calcule pas parce qu'il est innocent. On appelle ça... Il était quelqu'un qui avait la candeur, candide. Il en parle. Ça l'amène où? À être vendu en esclave. Ça finit où? En prison. Sa gentillesse, son amour l'amène en prison. Sa foi en Dieu l'amène où? À être prêt à interpréter des songes compliqués. Et il devient qui? Premier ministre par la suite, d'un grand pays comme l'Égypte. Juste à cause de la foi, à cause de l'amour, à cause de l'innocence. Bien-aimés, ce sont ces choses-là qui ont produit de si grandes choses en Joseph. Ce n'est pas l'action. Avant que David ne tue Goliath, il y avait la foi dans son cœur, un état. Et la Bible nous enseigne que c'est l'état, c'est l'être qui produit le faire et non l'inverse, bien-aimés. Nous sommes influencés par la logique du monde. La logique du monde, dans la logique du monde, c'est le faire qui produit l'être. Plus tu tapes les gens, plus tu as une position où tout le monde a peur de toi. Finalement, tu y es quelqu'un. Plus tu as de bons résultats à l'école, tu auras le meilleur diplôme. Et donc, tu es quelqu'un. Donc, c'est le faire qui fait de toi quelqu'un. C'est ça, le monde. On connaît tous les systèmes, hein? Les récompenses, les Oscars, pour ceux qui ont fait de beaux films. Le palmarès. Le palmarès, c'est tous les vainqueurs. Donc, un tableau qui regroupe tous les vainqueurs depuis les années où la compétition a commencé. Palmarès du mondial. C'est ça le monde. Tu as gagné, alors tu es quelqu'un. On te met dans le palmarès. Le CV, on dit avant le travail. Avant de quand tu fais une demande de travail, on te demande quoi? Un CV. Dans quel but? De voir qui tu es. Mais en fonction de quoi? De ce que tu as fait. Quelles études tu as faites? Quel travail tu as fait? Et aujourd'hui, on demande aux gens 3 ans au minimum, par exemple, d'expérience. Mais quand est-ce que tu feras ces 3 ans-là? Si tout le monde a besoin que tu fasses 3 ans d'expérience, quand est-ce que tu le feras? Ça, c'est le monde. On t'exige de faire pour qu'on te considère. Il faut que tu fasses, il faut que tu bosses, il faut que tu agisses. C'est là que tu as de la valeur. C'est ça le monde, malheureusement. Et tous les systèmes sont faits pour que tu fasses d'abord, que tu aies un palmarès, un CV pour être considéré. Le prix littéraire, quand on dit il a gagné le prix Goncourt, parce que tu as fait des romans, tu as fait un livre. Après avoir fait, on te considère comme quelqu'un. Avant que tu ne fasses, personne ne te connaissait. C'est le cas de ce qui s'est passé avec le prix Nobel de la littérature actuelle. Une Allemande d'origine roumaine qui n'était connue par personne. Depuis qu'elle a eu le prix Nobel, tout le monde la connaît maintenant. Parce qu'elle a fait quelque chose. Faire fait que finalement, tu deviens quelqu'un. C'est ça l'esprit du monde. C'est ça la logique du monde. Mais la Bible est claire dans Romains 12. Au chapitre 1er, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas à la logique du siècle présent. C'est clair, bien-aimés. Nous n'avons à copier rien du monde. Ce qui est du monde est étranger à Dieu. Cette logique-là de faire pour être, c'est étranger à Dieu. Les titres, docteur, est-ce telle chose? Professeur agrégé, parce que tu as fait, tu as beaucoup publié des choses. Professeur émérite, il y a des professeurs, mais toi tu es professeur émérite, parce que tu as fait des exploits. Donc tu reçois les titres en fonction de ce que tu as fait. Tu deviens quelqu'un en fonction de ce que tu as fait. Les prix scientifiques, prix Nobel de physique, prix Nobel de maths, parce que tu as fait des choses. Prix Nobel d'économie. Les diplômes. Tout cela parce que tu as fait quelque chose. C'est la logique du monde. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est pour satisfaire la soif de puissance et de positionnement de l'homme. Et quand on dit positionnement, ça veut dire la gloire. L'homme a des soifs essentielles, soif de puissance et de positionnement, d'honneur, de gloire. Puissance parce qu'il veut lui-même être un Dieu, gérer sa vie, diriger, produire. Il veut être puissant, indépendant. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui cherche juste à avoir son CDI, on dit, mais lui n'a pas la soif de puissance. Si, parce que dès qu'il a son CDI, il est assuré. Il a comme une puissance qu'on ne peut pas le licencier n'importe comment. C'est comme un pouvoir qu'il a. Mais s'il est en CDD, il sait qu'on peut, après son contrat, après la durée du contrat, c'est fini. Donc le CDI lui confère une puissance. C'est ça la soif de l'homme. La retraite lui confère une puissance. Et il cherche aussi le positionnement, l'honneur, le respect des autres, le positionnement dans la société. Qu'on dise, c'est un homme beau, C'est un homme fort. C'est un homme très intelligent. C'est un diplômé de Harvard. Ça, c'est le positionnement. C'est un président de la République. C'est un grand pasteur. Ça, c'est le positionnement. L'homme a ses deux soifs essentielles. Et le monde, comment il le satisfait dans ses deux soifs essentielles, il le pousse à faire, à travailler, à agir. Quand tu agis, tu as fait des grandes choses. Maintenant, tu peux avoir la puissance, tu peux avoir le positionnement. Tu as bossé dur pendant les deux mois d'essai. C'est là que tu peux avoir ton CDI. Tu as bossé dur pendant les études. C'est là qu'on te donne le droit d'aller faire l'ENA. Tu as bossé dur pendant tes études. Premier, c'est là qu'on te donne le droit d'aller à telle institution ou telle autre qui réclame que pour adhérer à ces choses-là, il faut avoir eu de très très bons résultats à l'université. Ça, c'est le monde. Faire pour avoir le positionnement. Faire pour être quelqu'un. Faire pour être puissant, pour être assuré de l'avenir. C'est ça la puissance. La puissance, tu es assuré de l'avenir. Tu sais que ton avenir est bien géré. Donc tu es puissant, tu gères. Tu as quelque chose qui fait que tu ne peux plus être déstabilisé n'importe comment. Tu as de la puissance. Il faut faire. Il faut travailler. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc il faut bien s'armer. Bien avoir des soldats. Comme ça, tu es sûr d'avoir la paix. Il faut travailler. Il faut faire pour avoir la puissance et le positionnement. Bien aimé, malheureusement, ce système-là est entré dans l'Église. Les gens veulent faire, veulent agir, veulent bosser, veulent bouger pour se sentir fort et se sentir avoir un positionnement. Ils veulent qu'on dise d'eux. Ils prient beaucoup. Ils veulent qu'on dise d'eux. C'est un grand évangéliste. Ils veulent qu'on dise d'eux. Il connaît beaucoup la parole. Ils veulent qu'on dise d'eux. C'est un bon intercesseur. Ils veulent faire pour acquérir une puissance, un positionnement. C'est entrer dans l'Église. C'est ainsi qu'ils forcent les choses. Ce qui est plus grave, ils sont malheureux. Parce que dans cette course, derrière le vent, c'est l'homme qui se fatigue. Parce qu'on peut te dire, professeur émérite, tu seras jaloux de celui qui a le prix Nobel. On peut te dire, ballon d'or de football, 2 ans après, ça ne sera pas toi. Tu seras encore jaloux. C'est sans fin. Cette course-là à faire pour être quelqu'un, pour avoir de la puissance, pour avoir du positionnement, ça ne finit jamais. C'est épuisant et ça rend malheureux. Ça rend jaloux, ça fatigue. Et c'est entré dans l'œuvre de Dieu. Au milieu des chrétiens, beaucoup de chrétiens sont malheureux. Ah, mais je manque tel don. Ils sont malheureux parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne servent à rien. Ils sont malheureux parce qu'on ne les sollicite pas pour telle chose. Ils n'ont plus la joie du salut, ce que le Seigneur nous a donné. Ils veulent à tout prix faire pour se sentir bien. C'est le schéma du monde. Faire pour être quelqu'un, pour avoir un positionnement, pour avoir de la puissance. Ce n'est pas de Dieu. Dieu est dans l'être. Il veut que tu aies la foi. Il veut que tu aies soif de lui. Il veut que tu aies faim de lui. Il veut de ça. C'est ça qui est intéressant. Bien-aimé, même dans le monde, tu peux avoir sur ta table tous les meilleurs mets du monde. Toute la plus belle, les meilleurs plats des grands cuisiniers, tous les meilleurs plats des grands cuisiniers du monde. Mais si tu n'as pas faim, ça ne sert à rien. c'est sans goût. C'est la faim qui rend la nourriture agréable. C'est la faim qui rend la nourriture agréable. Ce n'est pas la bonne cuisine qui rend la nourriture agréable. Je peux vous dire que quand vous avez faim, tout a un goût spécial. Il y a même des odeurs que vous ne sentiez pas. Quand vous étiez en état de satiété, mais quand la faim vous tenaille, vous sentez toutes les odeurs. Pourquoi? Parce que c'est la faim qui va rendre la nourriture belle, bonne. C'est la soif qui fait que tu bois, tu as du plaisir. Mais quand il n'y a pas la soif, quand il n'y a pas la faim, la nourriture ne sert à rien. La nourriture devient une lutte, un combat pour la prendre. C'est ça la réalité. Dieu dit, cherchez les états, cherchez l'être. Ne vous battez pas pour le faire. Ceux qui se battent pour le faire finissent par se fatiguer. Dans les choses de Dieu, il y a la faim qui est plus importante que le manger. Il y a la soif qui est plus importante que le fait de boire. Il y a la foi qui est plus importante que les œuvres. Ce n'est pas que manger, boire, les œuvres soient des mauvaises choses, ce sont des bonnes choses. Mais si elles ne sont pas précédées de la foi, si elles ne sont pas précédées de la faim, de la soif, ça conduit à l'orgueil et ça conduit à une déviation de vie, bien-aimée. Si nous voulons être heureux, revenons à la Bible. Vous savez, David dit dans le psaume 51, « Ce qui te plaît, ô Dieu, c'est un cœur contrit, quoi. » Ce ne sont pas les sacrifices, c'est un cœur contrit. C'est ça qui te plaît. Un cœur qui souffre, un cœur qui se répand. C'est ça qui plaît à Dieu. Quand tu dis « Pardon, Seigneur, je regrette. » Tu es dans un état de tristesse parce que tu te repens d'une mauvaise action. C'est cet état-là qui plaît à Dieu. Un cœur contrit. Ce ne sont pas les exploits qui plaisent à Dieu, parce que c'est le Seigneur est le Seigneur des exploits. Il accomplit des exploits. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur simple, un cœur contrit, bien-aimé. La Bible dit « Heureux le cœur pur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Heureux ces gens-là, heureux les pauvres en esprit. Bien-aimé, ce ne sont que des états. C'est des états, pauvres en esprit, cœur pur, faim et soif de justice. C'est des états. Voilà ce qui plaît à Dieu. Ce sont ces états-là. Et quand nous lisons dans Matthieu 5, les conséquences de ces états sont extraordinaires. On va lire cela, Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit à ses disciples, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Le Seigneur le dit clairement, mis à part un seul point où on dit heureux, ceux qui procurent la paix, c'est le seul endroit où on voit une action. Mais le Seigneur n'est pas contre l'action. Mais le Seigneur veut nous montrer que D'abord, le plus important, c'est l'être. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui sont affligés. Ce n'est pas ce qu'on va entendre dans le monde. Dans le monde, on va dire heureux les hommes forts. Heureux les femmes fortes. Heureuses les femmes fortes. Dans le monde, il y a une fable qui dit la loi du plus fort est toujours la meilleure. Or là, nous lisons heureux les affligés. Là, nous lisons heureux les pauvres en esprit. Là, nous lisons heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Donc, ils n'auront pas besoin de bombes atomiques. Ils n'auront pas besoin de Kalachnikov. Mais ils vont hériter la terre par la puissance de Dieu, bien-aimés. Parce qu'ils sont humbles. Heureux le cœur pur quand ils, car ils verront Dieu. Vous savez, il y a un cosmonaute russe, Yuri Gagarin, c'est le premier homme à aller en espace. C'est les Russes qui ont envoyé le premier homme en espace. Et quand il est revenu de l'espace, il passait d'école en école, comme là-bas la religion était interdite. Il passait d'école en école pour témoigner qu'il est parti en espace, en quelque sorte au ciel. Il n'a pas vu Dieu là-bas. Dieu n'existe pas. Et un jour, il est tombé dans une école où il y avait un petit garçon, un enfant de chrétien. Il a recommencé encore son discours. Dieu n'existe pas. Moi, je viens de l'espace. Je viens du ciel. On dit que Dieu est dans le ciel. Moi, je viens de là-bas. Il n'est pas là-bas. Le petit garçon a levé la main. Il a dit, monsieur, est-ce que je peux vous parler? Il dit oui. Alors, il lui dit, mais vous savez pourquoi vous n'avez pas vu Dieu là-bas? Mais parce que la Bible dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Il s'est arrêté là. C'est la vérité, bien-aimé. Ce n'est pas avec des satellites, avec des fusées qu'on peut voir Dieu. C'est un cœur pur qui peut voir Dieu. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Vous pouvez fabriquer même des soucoupes volantes. Ils ne vont pas voir Dieu avec leurs soucoupes volantes. C'est le cœur pur qui verront Dieu. Bien-aimés, remarquez comment la Bible insiste sur les états. Ces états-là, bien-aimés, vont produire l'action, obligatoirement. Ce sont des principes spirituels. La soif te poussera à chercher à manger. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un ici, tu peux manger une brochette de cuisses d'homme, personne ne dira oui. Hein. Mais il y a des gens qui ont mangé des morceaux d'homme parce qu'il y avait la faim. Un ami qui meurt, la faim est tellement forte qu'ils ont mangé un tout petit peu à l'ami qui était mort. Ah oui, il y a des gens qui ont bu leurs urines. Aujourd'hui, si on dit ça, les gens vont dire, attends un peu que tu te retrouves à Sarajevo. Bon, ben, ça s'est déjà arrangé. Mais les gens à Sarajevo ont bu ça, hein, tranquillement en plus. Pourquoi? Parce que tu as soif. Quand tu as soif, ça pousse à l'action. Tu te réveilles. Bien-aimé, c'est l'état qu'il faut chercher. Quel est ton cœur? C'est ça qui compte. Voilà ce qui compte pour l'évangile. Ce qui compte pour l'évangile, c'est quoi? Premièrement, lorsqu'on voit notre salut, ça vient de quoi? Ça vient tout simplement du fait qu'on est homme. Tu n'as rien fait. Juste parce que tu es homme, Dieu t'aime. Ton humanité, ton état d'homme a attiré l'amour de Dieu, qui a amené son fils à la croix. Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste le fait que tu sois homme, c'est extraordinaire. Ça a attiré l'amour de Dieu sur toi, parce qu'il t'avait créé autrefois à son image. C'est un état, juste cela. Qu'est-ce qui compte pour l'évangile, dans l'évangile? C'est la foi. La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. Par grâce, par le moyen de la foi. Tu crois, tu reconnais que Dieu existe. Tu reconnais qu'il est bon.
Tu reconnais qu'il est tout puissant. Tu reconnais que la bonne vie, c'est aimer l'autre. La bonne vie, c'est être droit. La bonne vie, c'est être honnête. Tu reconnais ça. Tu reconnais ton incapacité à te sauver toi-même. Tu reconnais que Dieu est amour. Et tu manifestes l'envie qui te sauve, qui te transforme. Voilà cet état-là dans lequel tu peux te trouver à un moment ou un autre. C'est cet état-là qui te sauve. Ce n'est pas une action, ce n'est pas une œuvre que tu as faite. C'est cet état-là de repentance, cet état-là de foi qui te donne le salut. C'est l'état qui est important. Ce ne sont pas les œuvres. Nous lisons Éphésiens 2. Éphésiens 2, la Bible dit ceci, au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. C'est par la foi. Bien-aimé, la Bible dit dans un autre passage, « Nul ne sera sauvé par les œuvres de la loi. » C'est-à-dire, nul ne sera sauvé parce qu'il pense être honnête, parce qu'il pense avoir été quelqu'un qui distribue les aumônes, parce qu'il pense avoir été quelqu'un qui a marché sans, en dehors de l'impudicité, parce qu'il pense qu'il est quelqu'un qui a vaincu la colère. Personne ne sera sauvé par ces œuvres-là, parce que nul n'est juste. Nous serons tous sauvés par la foi. Tu es là, tu dis, Seigneur, ma chair est pourri. Je le reconnais parce qu'il y a des pensées qui parfois peuvent passer dans ma tête qui sont anormales. Je ne les veux même pas, mais elles passent dans ma tête. Ça veut dire que je suis pourri en moi. Ça veut dire que j'ai une nature mauvaise en moi. Je ne peux même pas me sauver parce que ma nature mauvaise me poussera à être pour moi-même. Donc à excuser mes fautes. Je ne peux même pas me sauver, puisque ma nature mauvaise, c'est déjà une forme d'incapacité. Alors Seigneur, je crois que toi tu peux me sauver. La preuve, c'est la mort de ton fils à la croix. Ça a effacé mes péchés. Et je crois qu'à cause du sang de Jésus, tu m'acceptes au ciel. Là, l'action du salut se manifeste. Là, la puissance du salut se manifeste. Quand toi, tu es dans cet état-là, la puissance du salut vient sur toi. Et beaucoup de chrétiens, malgré cela, ils vont chercher plus tard à vouloir se sauver encore par les œuvres. En voulant se sentir sauvé par les œuvres. Bien aimé, nous ne sommes pas en train d'encourager le mal. Nous sommes en train de dire que nous sommes sauvés par la foi aujourd'hui, demain et tous les jours qui vont venir. Il ne faut pas croire maintenant, après 15 ans de vie chrétienne, que c'est la toiture qui va te sauver. Non, ça reste toujours ta foi en Dieu. Tu restes quelqu'un qui est porté par Dieu. Tant que tu ne te laisses pas porter par le Seigneur, tu connaîtras des échecs. Tu connaîtras des blocages. Si tu as été sauvé par la foi, ta sanctification se fera aussi toujours par la foi. Tu devras croire que chaque jour, ton Dieu te donnera la victoire sur le péché. Tu devras croire que chaque jour, c'est ton Dieu qui seul peut solutionner ton problème vis-à-vis du péché. Ça ne sera jamais ta chair, ça ne sera jamais ton expérience, ça ne sera jamais ta connaissance, mais ça sera l'Esprit de Dieu en toi qui te donnera la victoire. C'est cela, bien-aimé. Lorsqu'on oublie cela, lorsqu'on oublie que c'est cet état-là de foi en Dieu qui est notre victoire. C'est là qu'on commence à tomber dans des péchés, et même les plus bas, parce qu'on a négligé le fait qu'on était sauvé par la foi. Sauvé, ce n'est pas seulement bien-aimé, le fait d'avoir comme une autorisation à aller au ciel. Sauver, ce n'est pas seulement le fait d'avoir été transformé. On est devenu une nouvelle créature. Sauver, c'est chaque jour. La Bible dit dans Philippiens, au chapitre 2, que nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Ça veut dire que chaque jour, notre salut doit se manifester par la foi. Nous avons le salut, mais il se manifeste chaque jour en croyant que Dieu le travaille en nous. Mais lorsqu'on oublie que c'est Dieu qui travaille en nous, on se dit, j'ai une telle stature, je dois honorer ma stature en faisant ceci, en faisant cela, pour vaincre le péché. On se trompe et on finit par tomber. Nous devons chaque jour compter sur Dieu. En comptant sur Dieu, l'action de sa puissance se manifeste et nous sommes victorieux du péché. C'est très important. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous efforcer toujours à croire, à rester dans cet état-là de foi. Maintenir cet état-là, c'est très important. Vous savez, pour que le courant circule, c'est parce que les ingénieurs ont trouvé des systèmes qui vont maintenir toujours la soif. Parce que le courant, c'est une soif, c'est une différence de potentiel. Il y a un côté qui manque, il y a un côté qui en a, qui a des charges électriques. Et dès qu'il y a ce déséquilibre-là, le côté qui en a va vers le côté qui n'en a pas. C'est ce qui crée le courant. Maintenant, pour faire que le courant continue toujours, on fait toujours que ça manque d'un côté et ça continue. Alors, pour faire que la puissance de Dieu se manifeste toujours, il faut garder cet état-là de foi, cet état-là de soif de Dieu. Et donc, ça va continuer toujours à agir. Mais lorsqu'on se sent fort, on quitte cet état-là de foi, on quitte cet état-là de soif, eh bien, ça s'arrête. Il n'y a plus soif, il n'y a plus la foi, l'action de Dieu est arrêtée. L'état de foi, l'état de soif n'est plus là. Bien-aimé, attention, c'est l'être qui compte. Et le faire vient après. Ce n'est pas comme dans le monde. Qu'est-ce qui compte? C'est le cœur. Après l'homme, la foi, c'est le cœur. Dieu cherche des gens qui ont le cœur humble pour leur donner des missions. Ce qui compte, ce n'est pas les écoles théologiques que tu as faites. Ce qui compte, ce n'est pas ton expérience de 20 ans dans le Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité d'enseignements que tu as reçus. Ce qui compte, c'est ton cœur. En fonction de ton cœur, tu recevras des missions venant du Seigneur. Moïse a reçu la mission, mais Moïse n'avait pas reçu un bon enseignement juif, entre guillemets. Il était chez le Pharaon, il vivait dans le palais royal chez le Pharaon. Mais comment c'est lui qu'on décide? À lui que Dieu s'adresse pour sauver Israël. Même quand Moïse a fui l'Égypte, il n'est pas resté avec les Hébreux pour apprendre leurs coutumes, apprendre tout. Non, il est resté avec des étrangers encore. Mais son cœur était disposé. C'est quelqu'un qui aimait la justice. C'est quelqu'un qui aimait la droiture. C'est quelqu'un qui avait le sens de l'équité. C'est quelqu'un qui avait un cœur disposé à croire en Dieu et à lui obéir. Dieu lui a donné la mission. C'est le cœur qui compte pour Dieu. Il y en a qui cherchent à être des pasteurs, des prophètes, des gens qui cherchent à faire des exploits. Je vais te donner la solution. La solution, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur aime le Seigneur? Est-ce que ton cœur est disposé à servir Dieu? Est-ce que ton cœur est humble? Est-ce que ton cœur est désintéressé? C'est le cœur qui fait la différence. Dieu va se servir des gens qui ont un cœur simple. David n'était qu'un enfant, mais il avait un cœur simple. Dieu l'a choisi pour délivrer Israël. C'est clair. C'est le cœur qui compte. Nous ne devons pas penser qu'en apprenant beaucoup, en priant beaucoup, en faisant ceci beaucoup, que Dieu va te donner la mission. Non. Tu dois être seulement comme Marie qui a dit, je suis ta servante. Qu'il soit fait selon ta volonté. Voilà le cœur que Dieu aime. Des gens qui ne calculent même pas. Ils disent, moi, j'aime le Seigneur. Je suis prêt à balayer pour lui. Je suis prêt à faire ceci pour lui. Je suis prêt à faire cela pour lui. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, qu'on ne peut pas avoir des soifs. Au contraire, c'est que Dieu veut, il veut la soif. Mais pas une soif à la manière du monde. Une soif que tu vas étancher en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Une soif que tu vas étancher en voulant beaucoup faire. Une soif que tu vas étancher dans la communion avec le Seigneur. Ah Seigneur, vous savez qui faisait ça? Gédéon. On lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, ah Seigneur, je suis rien du tout moi. Regarde comment ton peuple souffre. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on l'a vu, on a vu ça. Quelqu'un, on lui prophétise, vaillant héros, bien aimé, c'est fini. Il ne va même pas dire, ah, mais est-ce que c'est moi? Non. Il écrit ça bien et la date sur un cahier. Ou bien il y en a qui commencent à poser des questions. Pasteur, on m'a dit que j'étais ceci. Pasteur, moi je dis toujours, calme-nous, ce n'est pas ça l'important. Aime le Seigneur. On m'a dit que j'étais un champion. Tous les chrétiens sont des champions. On m'a dit que je suis un prophète. Tous les chrétiens peuvent prophétiser. Toi, aime le Seigneur. Et il a soif de servir Dieu. Et il a soif des choses que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu veut que l'humanité entière soit sauvée. Qu'est-ce que Dieu aime? Il aime la justice. Qu'est-ce que Dieu aime? Il aime les humains. Aime les humains. Aime l'honneur de Dieu. Comme Paul, il arrive à Athènes, il trouve des idoles. Il aimait l'honneur de Dieu. Quand il voit ça, il voit rouge, comme on dit en français. Son sang ne fait qu'un tour. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et quand son sang ne fait qu'un tour, automatiquement la prédication vient. Il se positionne et il prêche. Il n'avait pas prévu de prêcher. Il n'avait pas calculé une prédication. Mais l'état d'honneur qu'il avait vis-à-vis du Seigneur, il avait de l'eau. Il aimait que Dieu soit honoré. Cet état-là a produit la prédication. C'est l'être qui compte pour le Seigneur. Bien-aimé, le cœur. C'est le cœur qui compte pour le Seigneur. Quel cœur tu as? Dieu aime les cœurs purs, les gens tranquilles, le cœur humble, bien-aimé. Les gens qui ne se posent pas trop de questions, les gens qui ne calculent pas, mais les gens qui sont entre les mains du Seigneur, qui ne disent pas, tiens, je vois, ils ont fait des signes là-bas. Est-ce que c'est de moi qu'ils ont parlé? Tiens. Tiens, bien-aimé, les gens qui sont là tout le temps, mais peut-être, alors, je suppose, Dieu dit, ça, ce sont des cœurs compliqués. Les cœurs simples, ce sont des cœurs qui n'acceptent que ce que Dieu leur montre clairement. Donc, il n'y a même pas moyen de réfléchir. Dieu a montré clairement, ben, on accepte, on continue. Mais les cœurs qui commencent à supposer, à calculer, Dieu dit non, ça c'est compliqué. Si je lui donne un troupeau, il va tuer les gens, il va commencer à supposer ceci, il va supposer cela. Non, le cœur simple, bien-aimé. Si je lui donne telle charge, il va commencer à calculer, à supposer. Moi je veux parler librement, je veux travailler tranquillement, bien-aimé. Le monde nous pousse à faire pour recevoir une position de la puissance. Bref, pour être. Mais Dieu nous pousse à être afin que lui, il fasse. Il nous pousse à manifester des états afin que lui travaille, que ce soit lui qui produise les actions, que celui qui a soif qu'il vienne boire, que celui qui croit constate le fleuve d'eau vive que je veux manifester en lui. Ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Bien-aimé, les chrétiens courent à gauche, à droite, parce qu'ils veulent manifester quelque chose. Ils veulent être utiles. Ils veulent faire bouger les choses. Dieu dit, quel état tu as? Quel état, dans quel état tu es plutôt? Quel est ton être? Quelle est ta nature? C'est ta nature qui changera les choses. C'est ton être. C'est ce que toi tu deviens qui changera les choses. Ce n'est pas ce que toi tu fais. C'est ce que toi tu es qui changera les choses. Si tu es bon, si tu manifestes le fruit de l'esprit, eh bien, les dons de l'esprit vont venir. Peu importe le temps que ça prendra. Quand tu es humble, tu accepteras forcément ce que dit la Bible, qu'il y a les dons de l'esprit. Et tu les aimeras puisque la Bible te les propose. Et ça se manifestera. Mais ce n'est pas en te battant pour les recevoir que tu les auras forcément. Dieu peut te les donner, mais pour ta ruine, il te montrera que ce n'est pas ça le plus important. Bien-aimés, nous avons vécu des époques. On a vu beaucoup de choses. On a vu des gens prophétiser. On a vu des gens faire des manifestations. On a vu des gens faire tomber d'autres. Mais la conclusion de cela a été triste. Beaucoup ont été même à l'origine de la conversion d'autres personnes. Mais aujourd'hui, nous savons où ils sont. Ils sont avec le diable. C'est l'être qui compte pour le Seigneur. C'est l'être qui est important. C'est le cœur pur qui compte. La puissance, c'est rien pour Dieu. L'apôtre Pierre était en train de prêcher à Corneille et à ses invités. Il prêchait. Il disait que le salut se trouve en Jésus. Les Corneilles étaient là, assoiffés. Assoiffé de la parole que Pierre prêchait. Et la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Bien-aimés, si Dieu agit, qui va s'opposer? Mais qui aussi peut obliger Dieu à agir? Qui? La Bible dit dans Romains 11, de 33 à 36, qui a été le conseiller de Dieu? Qui a été le conseiller de Dieu? Qui peut obliger Dieu à donner une puissance à quelqu'un? Qui peut obliger Dieu à donner un ministère à quelqu'un? Personne. Mais Dieu est attiré par des états, par la foi. Il est attiré. Les états produisent l'action dans le monde spirituel. Comprenez, bien-aimés, ce n'est pas que nous soyons contre l'action. Au contraire, nous aimons l'action, mais l'action qui vient du Seigneur. Nous aimons le mouvement, mais le mouvement qui vient du Seigneur. Le Seigneur a dit aux disciples, restez là, attendez, attendez à Jérusalem. Il ne leur a pas dit de bouger, attendez à Jérusalem. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Voilà l'ordre du Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais avant qu'il dise cette phrase, avant qu'il dise allez et faites de toutes les nations des disciples, quelle est la phrase clé? Il dit, tout pouvoir m'est donné. D'abord, l'État. Vous êtes des collaborateurs du Tout-Puissant. Maintenant que vous êtes des collaborateurs du Tout-Puissant, allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant que vous êtes les ambassadeurs du Tout-Puissant, vous pouvez aller. Ce qui est important, c'est que tu sois ambassadeur. Ce qui est important, c'est que tu sois chrétien. Du moment que tu l'es, le reste va se manifester. L'action va venir. Mais la grande question, est-ce que tu l'es? Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Dans quel état de chrétien tu te trouves? Est-ce que tu te trouves dans un état de chrétien plein ou bien juste dans un adjectif chrétien? Si tu es de... Dieu réclame que tu sois dans l'état de vrai chrétien, avec la foi. Tu sais que mon Dieu accomplira ce qu'il a promis. Il a promis le feu pour ses enfants. Il a promis le réveil pour ses enfants. Il a promis qu'avec lui, nous ferons des exploits. Alors, je le crois. Alors, je me prépare à ces exploits-là. Je prépare l'endroit. Je prépare mon cœur. Il faut que je sois dans un état de recevoir ces exploits-là du Seigneur. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Pose-toi la question. Si le Seigneur te donnait 1 million d'euros aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à cela? Bien-aimé, moi j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, ne me donne pas ce que je ne suis pas prêt à gérer. Je refuse de perdre mon salut, de perdre ma vie en possédant des grandes choses, même spirituelles. Je veux recevoir ce que je suis prêt à gérer. Change-moi, purifie-moi, transforme-moi, afin que ce que tu donneras... Bien-aimé, je suis tellement convaincu de la grandeur de Dieu, tellement convaincu de sa puissance, que je m'inquiète juste de mon état, quoi. C'est ça qui... Je cherche toujours, mais est-ce que je suis en état? Je suis convaincu que Dieu est tellement tout-puissant. Pourquoi? J'ai vu ce qui est écrit dans la parole. J'ai vu la puissance de Jésus. J'ai lu dans la Bible la puissance des apôtres, du Saint-Esprit au milieu des apôtres. J'ai vu des chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des églises qui ont expérimenté la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. Nous tous, nous expérimentons la puissance de Dieu, mais il y a des niveaux de puissance, bien-aimés. Mais ça reste la puissance de Dieu. C'est Dieu qui agit. Et puisque Dieu lui agit avec nous et avec eux, donc la puissance de Dieu est disponible. Si Dieu a donné à certaines églises des dons pour acheter des châteaux, si Dieu a permis qu'il y ait des architectes dans ces endroits-là pour travailler, c'est que ce Dieu-là, qui est notre Dieu aussi, ben il peut le faire avec nous. Mais est-ce qu'on est prêt? C'est l'état qui est important, c'est l'être qui compte avec Dieu. Salomon, il a fini où? Bien-aimé, ne cherchons pas le mouvement, cherchons l'être. Romains 12 nous dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, soyez attirés par ce qui est humble. C'est ce que Romains 12 nous dit. Les gens pensent que Dieu n'est pas puissant, alors il faut bouger. Il faut s'agiter pour qu'il agisse. Non! Dieu est attiré par la différence des potentiels. Lorsqu'on est soif, on a soif, sa puissance se manifeste. Lorsqu'on est malheureux, sa puissance se manifeste. Est-ce que toi tu es malheureux pour ta ville? Est-ce que tu es malheureux pour ta famille? Est-ce que tu es malheureux pour tes voisins? Est-ce que tu es malheureux pour les chrétiens qui s'égarent? Eh bien, si tu es malheureux, la puissance de Dieu va se manifester. Bien-aimé, moi j'ai été malheureux il y a 6 ans, 7 ans. Quand je prenais un livre chrétien, je voyais à la fin, c'était écrit « Interdit de reproduire une partie ou la totalité de ces livres. Tout droit réservé. » Quand je lisais ça, je disais « Ah, Seigneur, comment on peut interdire de reproduire ta parole ? Il faut seulement acheter. » Et je me disais, mais Seigneur, bien-aimé, là, il n'y avait pas encore la logique de bien lire la Bible pour dire, mais voilà ce qui est écrit. Mais juste une soif de voir que tout le monde puisse lire la Bible, lire le message du Seigneur à travers ses serviteurs. C'est ça le souci de tout chrétien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout chrétien aimerait voir l'humanité entière sauvée. Nous voudrions voir même les moustiques sauvés. C'est ça qui doit être la soif de tout chrétien. Mais quand je lisais ça, je disais, mais c'est pas normal. Comment ces gens-là qui ont écrit des livres qui édifient les gens exigent qu'on ne doive pas les reproduire? Qu'il faut payer, il faut aller réclamer tel droit. Mais si on se trouve dans un village où il n'y a pas des moyens de réclamer ces droits-là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, si quelqu'un a besoin de ça maintenant, donc il faut attendre une semaine le temps d'aller. Je disais, mais non, il y a un problème. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, quand tu vas m'inspirer, est-ce que je vais aussi faire ces choses-là? Je disais, non, je ne peux pas. Bien aimé, là, il n'y avait pas encore la logique de lire la Bible et de contrecarrer ceux qui font ça. Le contrecarrer, c'est les doctrines, pas les humains. C'est de là, petit à petit, qu'est née l'inspiration de la gratuité. Et j'ai fini par pratiquer cela. Aujourd'hui, nous sortons les CD, les DVD. C'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai été malheureux. j'ai été triste. Cette tristesse-là a produit l'inspiration. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. La puissance naît de l'état, de l'être et non du faire. Bien-aimés, ne nous méprenons pas. Le Seigneur Jésus était tout seul avec ses 12 disciples, 12 apôtres. Aujourd'hui, les chrétiens sont le nombre de chrétiens. En Corée, est-ce que du temps de Jésus, les gens connaissaient même la Corée? Est-ce que du temps de Jésus, les gens s'intéressaient à la Chine? Mais aujourd'hui, le plus grand réveil de l'histoire, l'un des plus grands réveils se fait en Chine. En Chine, qui aujourd'hui pouvait savoir, moi quand j'étais dans mon pays d'origine, les Indiens, on les considérait comme les plus grands magiciens de la terre. Aujourd'hui, je regarde certaines chaînes chrétiennes, je vois des prédicateurs indiens. Je vois en Inde, ça bouge à tel point que les hindous que nous on trouvait très puissants, ils sont obligés de voter des lois pour empêcher les conversions. Je me dis, mais leur magie ne marche pas. La puissance de Jésus est plus forte. Des Indiens qui se convertissent juste parce qu'il y a des gens à un certain moment qui sont dans l'état du Seigneur. Et quand il y a cet état-là, la puissance de Dieu se manifeste. C'est important. Beaucoup d'évangélistes ont échoué dans le monde entier. Parce qu'ils allaient avec l'orgueil, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'ambition, mais sans amour. Ils n'aimaient même pas les habitants des endroits où ils étaient envoyés. Mais il y a eu des évangélistes qui sont venus, qui se sont mêlés à la population, qui ont nettoyé les malades, qui ont aimé le pays où on les avait envoyés. Qui ont considéré les habitants de ces pays-là comme leur propre chair, eh bien, on a vu l'action de Dieu se manifester parce qu'ils étaient dans un état d'amour, d'humilité, bien-aimés. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la course au fer. C'est la course au grand meeting. Marche pour Jésus. Telle chose, c'est la course. Aux grandes campagnes d'évangélisation. Mais bien-aimés, moi je vous dis que tout cela est nul si Dieu n'est pas dedans. Si ça ne résulte pas d'une véritable soif du Seigneur. Si ça résulte juste d'une logique de conquête humaine. Parce que je suis chrétien, eh bien je dois dominer. Vous savez, j'ai regardé une émission sur Facebook, cet instrument d'Internet qui regroupe les gens. Eh bien, il y a des jeunes de l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy, qui lui ont fait aussi une vitrine sur Facebook. Alors, ils sont en train de mobiliser les gens pour que beaucoup de Nicolas Sarkozy ait le plus grand nombre d'amis. Ils le font par la chair, ainsi ils mobilisent les gens, parce qu'ils veulent que Nicolas Sarkozy soit au top. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens aussi peuvent toujours évangéliser, faire des actions, parce qu'ils veulent que leur mouvement soit le mouvement le plus connu, le plus respecté, le plus grand. Mais est-ce qu'il y a vraiment la soif de voir les gens changer? S'il y a cette soif, eh bien, autour d'eux, on doit voir du changement. Ils doivent aimer les petits. Ils doivent pardonner. Autour d'eux, on doit voir qu'ils donnent ce qu'ils ont à d'autres, comme argent, comme bien. C'est ça qui va prouver réellement qu'ils ont soif du changement. Ce n'est pas en criant avec des haut-parleurs, en faisant des banderoles. Marche pour Jésus. C'est en pratiquant la parole, en étant dans cet état-là. La Bible nous certifie que les fleuves d'eau vive vont couler. Tu n'auras même pas forcé. Ça va couler, parce que ce n'est ni par la force, ni de la puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'action du Saint-Esprit, mais tout cela vient d'un état. Ne courons pas à gauche, à droite, bien-aimés, pour chercher à être accepté. Parce que dans tout ça, c'est ça la course. Hein. L'homme veut être accepté par les autres. Il veut être remarqué. Il veut mériter les choses. Il veut dire, si j'ai été accueilli dans tel bureau, c'est parce que je suis docteur. Si j'ai été accueilli dans telle chose, c'est parce que j'ai fait ceci, cela. Il veut être son propre Dieu. Alors, il veut faire pour qu'on dise, il a fait, c'est pourquoi. Mais avec Dieu, c'est simple. Il te trouve dans ta misère. Il te trouve dans ton malheur. Et il vient te sauver. Quelle contradiction. Dieu a inversé les valeurs. C'est le malheur et la misère qui sauvent, et non la puissance et la gloire. C'est la mort de Christ à la croix qui nous a sauvés, et non pas ses miracles agissants. C'est la mort. C'est quand Christ s'est laissé faire, c'est là que nous avions été sauvés. Quelle contradiction. Dieu prend. Vous savez, quand on fait un croche-pied à quelqu'un, eh bien Dieu fait un croche-pied à la puissance, à la force de l'homme. Il dit, ce n'est pas toi le plus fort, c'est la petitesse, c'est la faiblesse qui est merveilleuse. C'est ça, la grandeur. Christ à la croix, c'est ça notre salut. C'est là où les forces des ténèbres ont été vaincues, bien aimés. Lisez la Bible. La Bible dit, dans Colossiens 2, ils ont été dépouillés. 14, 15, le document qui nous accusait a été déchiré à la croix. Ils ont été dépouillés de leur force, traduits en spectacle à la croix, alors que Christ ne faisait rien, bien aimé. Il ne faisait rien. Il se laissait faire. C'est en ce moment-là qu'ils étaient vaincus. Le diable veut nous pousser à faire pour nous sortir du plan de Dieu. Il veut nous pousser à lutter par nous-mêmes pour nous sortir du plan de Dieu. Il sait que si on reste calme, eh bien le plan de Dieu va s'accomplir. Je ne suis pas en train de justifier mon manque de puissance. Je manquerai de puissance jusqu'à la fin de ma vie. Mais le Dieu qui est en moi est tout puissant. En moi-même, je manquerai toujours. Je suis en train de dire la parole, bien-aimé. Vérifions ce qui est écrit. Il y a plein de passages. Ésaïe 35, qu'est-ce que Ésaïe 35 dit? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Plein de passages. Psaume 127, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui bâtit sans l'Éternel, bâtit. Donc celui qui bosse par lui-même, bosse en vain. Il a beau prier, il a beau jeûner, il bosse en vain. D'ailleurs, il dit encore, en vain tu souffres pour obtenir des choses. Mais le Seigneur le donne en son bien-aimé comment? Pendant qu'il dort, pendant qu'il ne fait rien, c'est là que le Seigneur lui donne. Est-ce pour dire qu'on ne doit pas prier, jeûner et lire la parole? Non, on va le faire. On va le faire parce qu'on aime. On va le faire parce que c'est notre vie. Je ne respire pas pour être appelé docteur respiration. Je ne respire pas pour être appelé apôtre de la respiration. Je respire parce que je suis un humain. Les humains doivent respirer, bien-aimés. Je lis la parole parce que je suis un chrétien. C'est ma nourriture. Je prie parce que je suis un chrétien. C'est ma respiration. Mais ce n'est pas pour être appelé bon chrétien. Ce n'est pas pour être appelé bon pasteur. Parce qu'il n'y a qu'un bon pasteur, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, quand il travaille en toi, eh bien, ses œuvres de bon pasteur se manifestent en toi si tu es aussi pasteur. Bien-aimé, c'est cela la vérité. Nous prions parce que nous devons aimer. Et notre faire, bien-aimé, c'est quoi? Notre faire, c'est la prière. Pendant que les autres, ils s'agitent, ils bougent, ils font des choses pour se sentir forts, nous, lorsque nous constatons des mauvaises choses, nous constatons, lorsque nous avons des projets, nous ne nous précipitons pas à faire. Nous prions, bien-aimés. Nous prions. Prier, c'est un état. Beaucoup ont transformé la prière en fer. Et Jésus rigole et dit, il y en a qui prient en multipliant les paroles, croyant que c'est la multiplication des paroles qui fait la force de la prière. Ah non, ce n'est pas la multiplication qui fait la force de la prière, c'est la communion avec Dieu dans la prière qui fait la force de la prière. C'est l'échange avec Dieu dans la prière qui compte. C'est cette respiration-là. C'est l'échange des soucis de Dieu qui compte. Est-ce que tu échanges avec Dieu? Est-ce que tu comprends ses soucis? Est-ce que tu t'intéresses à lui? Ou tu t'intéresses à tes projets et tu prends la prière comme un fétiche, à force de répéter, à force de parler, tu crois que les choses vont changer. Non, c'est l'état dans lequel que tu trouves dans la prière. C'est la prière état qui agit. Ce n'est pas la prière faire qui agit. C'est la prière état où on échange les soucis de Dieu. Comme Anne a compris le souci de Dieu. Ah Seigneur, ça fait longtemps que je te demande l'enfant. Avec des prières faire, prières faire, prières faire. Mais là, je suis dans la prière état. Vous savez, quand Anne est entrée dans la prière état, on a cru même qu'elle était devenue folle parce qu'elle était dans la prière état, bien-aimée. La prière état où tu deviens soucieux, où tu supplies, où tu n'es plus toi-même parce que tu souffres. Tu soupires. La Bible dit dans Romains 8, le Saint-Esprit nous aide même dans la prière par des soupirs inexprimables. Parce qu'on n'est plus bien, bien-aimé. On n'est plus bien. C'est important de comprendre ces choses. La force du chrétien, c'est la prière état. Quand les choses le dépassent, il prie. Et la prière le fait passer comme quelqu'un de bête, comme quelqu'un d'irresponsable. Comme un rêveur. Oh, tu penses que la prière peut faire quelque chose? Comme cette dame vers le 18e siècle qui n'avait aucun sou. À l'époque, vous savez, les prières, on les écrivait. Tu pries, tu écris en même temps. Elle a écrit une prière à Dieu sur un papier. Seigneur, nous n'avons pas de nourriture. Aide-nous, Seigneur, à manger ce soir. Elle écrit sa prière sur un papier. Nous qui avons fait certains pays, ou encore, quand vous allez acheter des choses au marché ou dans des épiceries, on les vend par kilo. Tu vas, tu achètes les pommes de terre, c'est par kilo. Il y a une balance, on met les poids en métal d'un côté et ce que tu achètes de l'autre côté. Elle est partie acheter la nourriture sans argent. Et elle a fait la queue. Elle arrive devant le marchand. Le marchand dit, vous voulez quoi? Elle dit, je veux telle chose. Bien sûr, elle a pris une petite quantité. Et le marchand dit, où est l'argent? Il lui montre le papier. Le marchand prend le papier, il lit, c'est une prière. Il dit, mais madame, une prière, mais ça va, à quoi ça va vous servir pour, à quoi ça va servir dans l'achat ici? Est-ce que ta prière a un poids? Elle prend le papier. Il dit, on va voir si ta prière a du poids. Vous savez, là où on met les poids en métal, il met la prière en papier, là, il dépose. Et il prend les pommes de terre, il met de l'autre côté. La balance penche du côté du papier. Il dit, mais c'est pas possible. Il rajoute, la balance reste du côté du papier. Il rajoute, ça ne fait que remplir, la balance reste du côté du papier. La femme repart avec une grosse quantité de nourriture, bien-aimée. Ça, c'est la puissance de Dieu. Même si en réalité, la machine a été coincée, mais ça a été coincé au moment où le papier a été mis là, bien-aimée. C'est ça la puissance de Dieu, la prière. Le chrétien, sa puissance, c'est la prière. Mais le chrétien n'aime pas la prière véritable. Parce que la prière véritable rend quelqu'un bête. La prière véritable te fait passer à toi-même comme quelqu'un d'irréfléchi. Dis-moi, ah oui, mais qu'est-ce qu'une prière? Est-ce que la prière a un poids? Surtout quand on regarde certains méchants. Bien-aimés, il y a un frère dans la Deuxième Guerre mondiale, prisonnier français en Allemagne. Comprenez le contexte, il est prisonnier français en Allemagne. Sa femme est en Suisse avec les enfants. Il souffre terriblement en prison. Mais un jour, il se réveille avec l'impression de retrouver sa femme et ses enfants. Il comprend que Dieu l'autorise. Dieu a prévu qu'il retrouve sa femme et ses enfants. Bien-aimé, le bien-aimé ose aller demander un visa pour la Suisse. Déjà, il est prisonnier, il n'a pas le droit de quitter la prison, le camp. Deuxièmement, c'est un prisonnier français, donc c'est un ennemi. Parce qu'avant de demander le visa en Suisse, il faut d'abord recevoir le visa de sortie de l'Allemagne. Est-ce que vous avez déjà vu la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que vous avez connu les SS allemands, comment ils étaient méchants? Les voisins de la cellule, de la prison, disent, mais tu es fou, d'Apozo, tu es fou. Il dit, mon Dieu va faire. Il est parti déposer le dossier. Le soldat lui a dit, mais tu es fou. Qui va te donner ce visa-là? Il dit, c'est mon Dieu. Eh bien, les soldats lui ont dit, ton Dieu est mort. On va voir aujourd'hui. On va voir maintenant si ton Dieu, il est vivant, il est mort. On va te le prouver. Est-ce que tu sais que pour que tu aies ton visa, il faut que ce soit Himmler qui signe? Himmler fait partie des gens les plus méchants de l'époque d'Hitler. Donc, quand tu entends le nom d'Himmler, tu trembles. Et lui-même, quand il a entendu que c'est Himmler qui devait signer, il a dit, ma foi m'a abandonné en ce moment-là. Bien-aimé, il y a certaines situations qui t'enlèvent rap la foi. Ça t'enlève parce qu'il y a démons et démons. Tous les démons n'ont pas la même puissance. Il y a des démons qui sont derrière une situation. Tu vois la situation, tu as l'impression que tu es une fourmi. Quoi. Mais il s'est dit, non, Dieu n'a pas menti. Il commença à compter les traits. Il écrivait des traits sur une partie du mur de la prison ou bien sur une pièce dans sa cellule. Et les voisins rigolaient. Tu peux toujours faire des traits. Il faut les faire petits parce que tu vas en faire beaucoup. Hein. On rigolait. Mais fais-toi beaucoup plus d'espace. Il a attendu 6 mois. La réponse est venue négative. Les soldats ont dit, votre Dieu est mort. Ils ont rigolé. Il a dit non, je vais refaire encore la demande. Il refait encore la demande. Entre-temps, à cause de sa bonté, de sa capacité à bien travailler, il a fait connaissance d'un homme allemand vers l'endroit où il était, un homme important. Et petit à petit, son cas a été connu. Et 5 mois après, ou 6 mois après, il reçoit le visa signé Himmler lui-même. Bien-aimé, je ne peux pas vous expliquer parce qu'il faut avoir connu le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde n'a pas lu les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde ne connaît pas ce contexte-là. Rien que pour avoir un visa, pour un Allemand, c'était impossible. Un Allemand libre, bien positionné, c'était impossible. Lui, un prisonnier suisse, un prisonnier français, ennemi, on lui donne un visa, donc on l'autorise à sortir de la prison pour aller voir sa famille. Bien-aimé, c'était extraordinaire d'extraordinaire. Parce qu'il croyait en Dieu. La prière, c'est bête, mais c'est puissant. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà, moi je choisis la puissance. Quitte à paraître bête pour moi-même et pour ceux qui m'entourent. Notre force, c'est la prière, bien-aimé. Quand tu souffres, Dieu entend. Parfois, tu ne parles pas, mais il entend. Et tu restes bon envers tes ennemis qui te font souffrir. Tu restes confiant surtout, confiant en Dieu dans la prière. C'est ça, bien-aimé. Acceptons l'être. Acceptons d'être des enfants de Dieu, tout simplement. Vous savez pourquoi les gens cherchent à faire? Pour être reconnus, pour être acceptés, pour avoir des positions. Je vais vous poser une question. Le chien du président, qu'est-ce qu'il a fait pour être reconnu? Ou bien le chat du président? Je peux vous dire que le chien et le chat du président mangent mieux que nous tous ici réunis. Là. Ah oui? Ils sont mieux entretenus que nous. Mais ils n'ont rien fait. Ils se sont retrouvés au bon endroit. Et il y a eu quelqu'un qui les a aimés. Ça s'est trouvé que c'était le président. Et toi qui t'aimes, c'est le président des présidents. Le roi des rois, il t'a choisi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je viens de lire et j'ai dit, Seigneur, comme tu confirmes ta prédication. Dans mon bureau aujourd'hui, je lis l'histoire d'un enfant qui a vu une annonce, il y a des chiots à vendre. Et il amène ses parents voir l'endroit. Et le prix, c'est combien? 50 euros ou 50 dollars. Il dit, mais moi, je n'ai que 3 euros. Mais est-ce qu'avec 3 euros, je peux ne serait-ce que les voir? On fait sortir les chiots. On sort. Il y avait 4 premiers qui viennent là en jouant. Ils étaient beaux. Et puis, il y a un dernier qui avait de la peine à avancer. Et puis, il dit au monsieur, ben, qu'est-ce qu'il a comme problème, le dernier? Il dit non, il est mal né, il ne peut pas marcher comme il faut. Donc, c'est quelqu'un qui sera comme ça toute sa vie. Il dit, bon, moi, je le veux, celui-là. Veux-tu me le vendre? Il dit, ah, pour celui-là, je te le donne carrément. Lui, il dit, non, je veux l'acheter. Alors, dans ce cas, je te le donne peut-être pour le montant. Il dit, non, je veux l'acheter à 50 comme tous les autres. Je le prends déjà maintenant et je vais te donner chaque mois 50 cents. Parce qu'il n'a que, ce n'est qu'un enfant, il n'a pas d'argent. Il dit, chaque mois, je te donnerai 50 cents jusqu'à ce que les 50, parce que moi, je l'estime qu'il a la même valeur que tous les autres. Alors, la leçon qui m'a dépassé de cette histoire, c'est quoi? Quel est le plus important? C'est de trouver un homme qui t'aime et qui te considère. Si tu le trouves, eh bien, tu seras heureux entre les mains de cette personne-là. Pourquoi chercher à ce que tout le monde te reconnaisse? Pourquoi chercher à ce que tout le monde t'applaudisse? Trouve plutôt quelqu'un qui lui va t'accepter tel que tu es. Parce que les gens t'applaudiront en fonction de ce que tu fais. Tant que tu es l'homme le plus fort, ils t'applaudiront. L'homme le plus beau, ils t'applaudiront. L'homme le plus intelligent, ils t'élèveront. Le jour où tout cela finit, c'est fini. Tu ne peux plus faire. Mais celui qui t'accepte tel que tu es, eh bien, il t'aimera toujours. Parce que ce n'est pas ton faire qui l'a impressionné, mais c'est ce que tu es. Or, toi et moi, nous l'avons trouvé, celui-là. C'est l'homme le plus important. C'est Jésus. Il nous a jugés dignes de mourir pour nous. Pourquoi nous voulons chercher à être applaudis en tant que pasteurs? Pourquoi nous cherchons à réussir dans le monde? Pourquoi nous cherchons à faire pour être acceptés, pour avoir une position, une puissance? Pourquoi on n'accepte pas qu'il nous aime et qu'il s'occupe de nous tout simplement? Lui nous considère à un haut niveau. C'est pourquoi il est mort pour nous à la croix. S'il ne nous considérait pas, il ne mourrait pas pour nous. Pourquoi on veut faire à tout prix pour être reconnu, bien-aimé? Nous perdons notre temps. Nous nous essoufflons. Bien-aimé, quand j'ai pensé, oh Seigneur, c'est vraiment comme ça que tu me considères? J'ai voulu pleurer, j'ai dit, c'est pas possible. Moi qui parfois vois dans ma tête des mauvaises pensées passer, Seigneur, tu m'as accepté comme ce chien-là et t'as accepté par cet enfant-là. Juste pour ce que je suis. J'ai dit, c'est pas possible. Dieu nous aime. Bien-aimé, je suis pasteur. J'ai dit, mais Seigneur, tu nous aimes vraiment comme ça? Alors j'ai dit, pardon Seigneur, pour avoir voulu tout le temps faire pour que tu m'aimes davantage. J'accepte que tu m'aimes comme ça. C'est tout. J'accepte. J'accepte ce que Jésus a fait pour moi à la croix. J'accepte. Je ne cherche pas à l'épater. Je ne veux plus chercher à faire cela. Je veux seulement les laisser me porter. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche
Sachant ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Ma sagesse,
Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Jésus en paix à ma dette.
Jésus en paie ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà m'a placé prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté et déjà m'a placé prête au ciel pour l'éternité.
Jésus-Christ est ma sagesse.
Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Il éclaire.
Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Ô Seigneur, aide-nous à accepter ton amour, Seigneur. À ne pas forcer, à ne pas chercher à te forcer la main, Seigneur, par le fer humain, Seigneur. Aide-nous à accepter que tu nous portes, Seigneur, que tu nous portes, à ne pas vouloir mettre en avant nos mérites, parce qu'aucun ne sera sauvé par ses mérites, Seigneur. Aide-nous à accepter, Seigneur, d'être le dernier, parce que le dernier avec toi est plus important que le premier tout seul, Seigneur. Aide-nous à accepter le choix que tu as fait sur nous, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis. Pourquoi vouloir nous faire choisir maintenant par toi alors que tu nous as déjà choisis, Seigneur? Oh Seigneur, aide-nous à accepter que tu es puissant et que tes plans s'accompliront dans les cœurs qui s'attendent à toi, Seigneur. Aide-nous à croire, Jésus, à croire ce qui est écrit, Seigneur, à ne pas nous confier en ce que nous voyons, mais à croire en ce qui est écrit, Seigneur. Car ce qui est écrit s'accomplira certainement. Tu l'as dit à Habacuc, et les choses n'ont pas changé. Seigneur, nous croyons, et nous voulons croire davantage, comme des enfants. Nous croyons que nous verrons ta puissance agir de manière à sauver la multitude, Seigneur. Selon tes voies à toi, Seigneur, et non pas selon la logique mondaine qui s'est infiltrée au milieu de tes enfants, Seigneur. Aide-nous à croire, parce que tu es bon et tu es fidèle. Nous te demandons pardon d'avoir cherché à t'impressionner. Nous te demandons pardon d'avoir cherché à obtenir notre salut par nos efforts et par nos œuvres. Nous voulons d'abord le salut par la foi, ensuite les œuvres. Nous ne voulons pas l'inverse, Seigneur. Aide-nous par ton Esprit Saint. À toi la gloire, la louange. Merci pour le repos que tu nous donnes à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni.